Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières. Une terre, une auteure.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. En cette semaine de la langue française et son point d'orgue en ce 20 mars 2021, qui célèbre la journée internationale de la francophonie, mot que nous commenterons avec notre invité tout à l'heure, j'ai la joie de recevoir une auteure qui porte en elle plusieurs pays, la Suisse, le Gabon, la Belgique, la France, entre autres, et qui, en écrivant en français, nous raconte le monde. Bonjour Bessora.
Bonjour.
Il se trouve que c'est par hasard que paraît votre nouveau roman en ce mois de mars, qui par tradition met en lumière cette langue française que nous sommes nombreuses et nombreux à avoir en partage sur les 5 continents. Mais au regard de ces multiples sources qui vous traversent et vous constituent, que vous inspirent ces célébrations ?
Effectivement, je me rends compte qu'il sort la semaine de la célébration de la francophonie en France. C'est un mot qui peut être compris de plusieurs manières. En principe, ça devrait vouloir dire personne qui parle français, tout simplement. Mais dans certains contextes, et s'agissant des écrivains, on a parfois l'impression qu'un écrivain francophone, c'est un écrivain étranger qui écrit en français, ou que c'est un écrivain français qui a une gueule d'étranger, donc polémique.
Et vous ?
Eh bien écoutez, moi je me situe un peu à l'extérieur de tout ça et au bout de 20 ans d'écriture et de publication, je ne me préoccupe plus des étiquettes qu'on peut me mettre sur le front.
En tout cas, c'est un beau passeport pour voyager, à l'image de ce nouveau roman que vous nous proposez, Bessora, le 12e je crois, paru sous le titre « Les orphelins » aux éditions Jean-Claude Lattès, qui nous emmène cette fois en Afrique du Sud. Là, en 1948, est arrivé au Cap un paquebot venant d'Europe avec à son bord 83 enfants allemands, déplacés pour être adoptés par des familles blanches, afrikaners, afin de perpétuer leur communauté. Une histoire terrible et une histoire vraie surtout, qui pourtant est oubliée aujourd'hui. Comment en avez-vous eu connaissance, Bessora, et qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans ce drame, au point de vouloir y consacrer un roman ?
Alors j'ai une histoire un peu particulière avec l'Afrique du Sud dans la mesure où quand j'étais toute jeune, je me suis dit un jour, je ne suis jamais allée plus bas que l'équateur et si j'allais tout au bout du monde et ce bout du monde me paraissait l'Afrique du Sud. Donc je suis partie avec mon sac à dos à Cape Town en 94, ce qui était peu de temps après l'abolition de l'apartheid et juste après l'élection de Mandela. Et j'ai eu un coup de foudre pour ce pays qui était complètement blessé et qui me semblait comme un effet de loupe sur nos propres pays et puis nos propres problématiques identitaires en particulier. Et il y a 2 ou 3 ans, un soir tard, je tombe sur un documentaire sur Arte, un documentaire de Régine Dura qui s'appelle...
Du sang blanc pour l'Afrique du Sud.
Mais merci de me servir de mémoire. Et j'ai été bouleversée par le témoignage des 2 protagonistes de ce documentaire, qui sont aujourd'hui des vieillards de pas loin de 80 ans, dont un est malheureusement décédé. Et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est de voir dans les yeux de ces hommes âgés des enfants qui avaient porté le poids d'une culpabilité énorme et qui était double, puisqu'ils étaient à la fois l'emblème du nazisme et l'emblème de l'apartheid. Ces enfants qui effectivement ont été sélectionnés dans des orphelinats allemands par une association de bienfaisance pro-nazie en vue de les expédier entre guillemets en Afrique du Sud où ils devaient être adoptés pour repeupler la population afrikaner. Et je voulais absolument écrire l'histoire de ces enfants qui auraient dû être 10 000 hein, en principe et qui finalement n'ont été que 83 et dont le parcours est tombé dans les poubelles de l'histoire. Donc je suis partie en Afrique du Sud à la recherche de Peter que j'ai retrouvé après une enquête complètement surréaliste. Et j'arrive à cette adresse, je me trouve devant une barrière électrifiée, vous savez comme il y a souvent en Afrique du Sud dans les résidences, avec ces panneaux qui vous avertissent que il y aura une réponse armée en cas d'agression. Je finis par sonner à sa porte et il l'ouvre toute grande. Et là, je lui dis « Bonjour, je m'appelle Bessora, je suis écrivain, j'ai fait 10 000 km pour vous rencontrer. » Et il a été très chaleureux, ça a été le début d'une relation très chaleureuse qui a nourri cette fiction.
Et si vous voulez bien, Bessora, on va l'écouter, Peter. Il y a un extrait de ce documentaire de Régine Duras, du Sang Blanc pour l'Afrique du Sud, qui avait été diffusé sur Arte.
Je devais avoir 11 ou 12 ans. C'était son anniversaire et je lui avais écrit un poème. Pour lui offrir en cadeau. Mais elle a décrété que seul un adulte avait pu écrire ça. Elle prétendait que je l'avais recopié. Elle est allée à l'école, c'était l'école allemande à l'époque, et elle a été voir les professeurs pour essayer de savoir où j'avais pu le recopier. Elle a écrit en Allemagne, ça a duré plusieurs années. Elle a envoyé le poème dans divers endroits pour tenter de trouver où j'avais pu le recopier. Mais je ne l'avais pas recopié. C'est moi qui l'avais écrit. La conséquence directe, c'est qu'elle m'a enfermé dans le garage pendant 3 jours. Elle m'a donné du papier et un crayon et elle m'a dit « Écris un autre poème sur l'eau pour que je vois ce que tu sais faire. » Aujourd'hui encore, je regrette d'avoir écrit ce poème.
Voilà, la voix de Peter dans ce documentaire du Sang Blanc pour l'Afrique du Sud de Régine Duras, ce personnage... Cette personne qui devient personnage de roman avec vous, Bessora, pour ce livre, je le rappelle, Les Orphelins, qui raconte l'histoire de deux jumeaux, un frère et une sœur. Je crois aussi que sur la photo de la couverture, c'est ses enfants en 1948, cette photo en noir et blanc qui arrive en Afrique du Sud.
Alors déjà, le témoignage de Peter m'a mis la chair de poule, comme à chaque fois que je l'entends. Et j'ai voulu que sur la couverture figure une photo de Peter avec son frère et sa sœur, le 8 septembre 1948, quand ils arrivent. Ils ont 6, 7 et 8 ans, et ils n'imaginent pas ce vers quoi ils vont. Et j'ai absolument tenu à ce que cette photo figure sur la couverture, parce que quand on plonge dans le regard de ces enfants, c'est assez difficile d'en revenir tellement c'est bouleversant. Et je dédie ce livre à Peter d'ailleurs. Et le passage que vous avez passé, c'est précisément le nœud du documentaire et le moment le plus bouleversant. C'est ce moment qui m'a déterminée à partir à sa rencontre. Cette relation avec cette mère
adoptive,
qui l'enferme dans un garage parce que elle tient absolument à ce qu'il lui ait menti alors qu'il est sincère avec elle.
Donc, Peter, dans la vraie vie, Wolf, dans votre roman, Bessora et sa sœur Barbara, deux enfants innocents, mais qui déjà portent un terrible fardeau, orphelins, déplacés, issus de l'Allemagne nazie, adoptés dans un pays divisé en deux par l'apartheid. C'est la double, triple, voire quadruple punition. Comment est-ce que vous avez nourri cette souffrance, cette incompréhension, cette colère qui traverse vos personnages?
Disons que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils sont enfants et c'est un mélange d'appréhension et de curiosité. En particulier pour Barbara, qui trouve, quand elle arrive, elle dit « Oh, mais c'est horriblement beau, il y a des montagnes comme en Suisse ». Et alors à ce moment-là, son père adoptif lui dit « Ah, mais est-ce que tu es déjà allée en Suisse, Barbara ?» Elle dit « Non, mais il y avait des cartes postales à l'orphelinat ». Et donc ils ont une mission dont ils n'ont pas conscience à ce moment-là, qui est une mission importante, hein, parce que repeupler l'Afrique du Sud, régénérer le sang des Afrikaners, mais aussi prendre la succession du domaine viticole familial, il y a un poids énorme sur leurs épaules. Pourtant, eux ne se considèrent pas comme une élite. Ce sont des orphelins. Ils viennent d'un pays qui est en ruine. Ils ont eu faim. Donc ils n'ont pas le sentiment d'être supérieurs. Ce qui fait que la doctrine de l'apartheid va avoir beaucoup de mal à les imprégner. Et ils vont avoir énormément de mal à s'intégrer, au point de parfois se sentir plutôt en empathie avec des populations discriminées que intégrées au sein de leur communauté supposée.
C'est ce qu'on voit à travers le récit de Wolf. Et Bessora, vous avez donc choisi de faire parler Wolf. Alors, bien sûr, le récit prend aussi en charge Barbara, puisque le garçon dit « je », il s'adresse à sa sœur en disant « tu », il l'inclut, donc elle est très présente, mais elle reste un tout petit peu en retrait. Est-ce que, selon vous, c'est parce que aussi elle est moins en colère que lui, dont l'obsession ne tourne qu'autour de l'idée de rentrer en Allemagne et de retrouver éventuellement des parents éloignés et qui n'acceptent pas cette coupure?
Oui, c'est vrai que son désir de retour en Allemagne commence assez tôt, précisément au moment où il est enfermé dans le garage par sa mère. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont j'allais construire ce roman, le composer. Au départ, je pensais en faire un journal intime qui serait écrit par Barbara. Et au fur et à mesure de mon travail, de mes recherches dans les sources, parce que je me suis aussi pas mal documentée, j'ai eu le témoignage direct de Peter, mais je me suis aussi pas mal déplacée dans les musées, dans les archives qui étaient disponibles. Et j'ai fini par me rendre compte que j'allais raconter un récit autour de la culpabilité, mais aussi de la résilience, et que donc tous les personnages dans ce livre ont un rapport particulier à la culpabilité. Wolf en a très conscience et il essaie de s'en dépêtrer. Leur mère, elle se sent coupable aussi d'un tas de choses, en particulier de ne pas être à la hauteur des ambitions de son père, parce qu'évidemment, elle fait partie d'une société qui imbue de sa supériorité, mais quand on se croit supérieur, faut être à la hauteur. Et elle n'y arrive pas, c'est très difficile, c'est très douloureux pour elle, mais sa culpabilité, elle va la rejeter sur d'autres personnes. Donc, puisque je parlais de culpabilité et de résilience, j'ai pensé que mon protagoniste, entre guillemets, ça devrait être celui qui l'éprouvait le plus, cette culpabilité-là. Et c'est effectivement Wolf qui l'éprouve le plus, qui est le plus en colère contre son adoption, contre la société dans laquelle il vit, contre un tas de choses. Alors que Barbara est plus en paix, elle accepte davantage le présent, même si elle n'a pas forcément un très grand amour d'elle-même, parce qu'elle ne rentre pas non plus dans la norme qu'on voudrait lui imposer.
Est-ce qu'en effet, elle ne veut pas faire de vagues parce qu'elle aussi, elle cache un secret qui ferait d'elle, s'il était su de toutes et tous, une paria de cette société blanche bien pensante?
Oui, parce que l'apartheid, c'est un arsenal juridique qui, avec des lois d'habitation séparées, l'interdiction des mariages mixtes, l'interdiction des relations sexuelles entre noirs et blancs, et d'autres lois que je n'ai pas en tête là, mais c'est aussi l'interdiction de l'homosexualité. Et elle, très tôt, elle tombe amoureuse des mêmes filles que son frère. Elle aime tellement son frère qu'elle va tomber amoureuse d'une petite fille comme Wolf. Et elle en a honte, parce que malgré tout, elle est imprégnée de l'exigence qu'ont ses parents adoptifs. Et elle pense être malade. Et donc, elle voudrait se punir et elle ne comprend pas que son frère ne la déteste pas pour ce qu'elle est.
Heureusement, dans cet univers sombre pour les enfants, il y a aussi quelques puits de lumière, quelques rencontres un peu magiques. Celle de Wolf, par exemple, avec une psychologue qui va lui faire découvrir un titre que je vous propose d'écouter, Bessora. Cette chanson s'appelle « We Three » et elle est interprétée par The Ink Spots.
« We Three » Living in a memory, my echo, my shadow, and me. We three, we're not a crowd, we're not even company. My echo, my shadow, and me. What good is the moonlight? light, the silvery moonlight that shines above. I walk with my shadow, I talk with my echo, but where is the one I love? We three will wait for you, even till eternity. My echo, my shadow, and me.
We three. We're all alone. Seem like we're living in a memory. That's my echo, my shadow, and me. We three.
Et sur ce titre, We Three, interprété par The Inkspots dans les années 40, nous reprenons sur RFI dans Littérature sans frontières notre conversation avec Bessora, qui vient de publier Les Orphelins aux éditions Jean-Claude Lattès. Un roman, on l'a dit en première partie, qui s'appuie sur l'histoire vraie de 80 enfants allemands qui, en 1948, ont été déplacés en Afrique du Sud. Et ici, avec vous, nous suivons donc l'histoire en particulier de Wolf et Barbara, ces jumeaux adoptés dans une famille afrikaners et à l'époque de l'apartheid. Sauf que l'amitié, l'amour n'ont pas de couleur, et que vous racontez aussi, Bessora, comment vos personnages se battent ou résistent en tout cas aux lois et à la ségrégation. Est-ce que c'est aussi un roman plus généralement qui fait l'éloge de la transgression ?
Ah ben, ils sont clairement dans la transgression, dans la mesure où l'endoctrinement n'a pas réellement de prise sur eux. Et c'est remarquable parce que c'est facile à dire aujourd'hui que l'apartheid a été aboli et qu'on est plutôt dans un environnement de tolérance, sauf exception notable. Mais c'est assez exceptionnel quand on arrive en Afrique du Sud en 48, qu'on est censé être de petits Aryens et que on fait partie d'une famille très favorisée qui possède 22 hectares de vignobles. C'est remarquable de rester en dehors de cette histoire. Donc effectivement, ils sont dans la transgression.
Avec par exemple cette amitié avec Tendo, donc le fils de Gracia, la nounou, mais voilà, il se trouve que c'est un petit garçon qui n'aura pas les mêmes chances que les deux jumeaux dans la société sud-africaine.
Non, effectivement, ils ne vont pas du tout avoir le même destin. Pourtant, ils vont tisser des liens, ils vont être extrêmement proches. Quand Wolf et Barbara arrivent en Afrique du Sud, alors très vite, Wolf est censé monter sur les tracteurs, aller nourrir les autruches, s'occuper des maïs. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout son truc. Barbara, elle aimerait bien. Elle a envie d'avoir ce rapport à la terre et elle est complètement fascinée par les étendues de champs de blé, par le domaine qui est magnifique, qui date du XVIIIe siècle. Donc elle est ravie d'avoir ça en héritage, sauf que ça ne lui est pas destiné puisqu'elle est une fille et qu'elle, on doit la marier. Alors Wolf se retrouve dans un parc, dans un enclos, à devoir nourrir les autruches. Et heureusement pour lui, Tando est là et Tando l'aide. Et ça va être le début d'une très très longue amitié.
Et d'une vraie amitié, puisque Tando va finalement se sacrifier aussi pour cette famille. C'est aussi un roman, me semble-t-il, sur le fait, évidemment, qu'aucune loi n'empêchera jamais la naissance des enfants métis, à l'image du petit Willem, qui, à la grande surprise de ses parents suprémacistes, on peut le dire, naît avec une autre couleur de peau, parce que la grand-mère blanche a aimé un homme noir et que les gènes sont ressortis à la génération suivante. Garçon qu'on va obliger au début à lisser ses cheveux pour cacher son origine. Est-ce qu'il y a eu une sorte de satisfaction pour vous, écrivaine, à imaginer ce personnage qui renvoie à sa famille le paradoxe de son racisme ?
Je crois que c'est un paradoxe qui a souvent été renvoyé dans des familles qui étaient dans la bonne classe. Et pour cette raison, la loi sur la classification de la population a été modifiée de manière à ce que on n'ait plus de drame de la séparation. Parce qu'effectivement, quand dans une famille réputée blanche naissaient des enfants un peu trop basanés ou un peu trop frisés, la loi les obligeait à changer d'école, aller habiter éventuellement chez leur nourrice. Et ça a créé suffisamment de drames pour que la loi soit modifiée. Et là, je me suis inspirée en particulier de l'histoire de Sandra Lane, qui est assez emblématique de ce genre de problème. Mais
racontez-la nous.
C'est une jeune femme qui est née dans les années 60 dans une famille de africaneurs. Il me semble qu'ils étaient exploitants agricoles. Et à l'école, on a fini par la dénoncer parce qu'effectivement, elle était assez basanée. Elle avait des cheveux plutôt crépus. Donc, test ratio. Et elle n'était pas blanche, donc elle a été déclassée. Et son père s'est battu pendant des années pour qu'elle puisse réintégrer la bonne classe.
En tout cas, Wolf, comme vous le disiez, Bessora, l'endoctrinement n'aura pas de prise sur lui, parce que lui aussi, il va écouter que son cœur et épouser une femme d'origine indienne, avec qui il aura une fille, Marianne, laquelle, beaucoup plus tard, j'avance un peu dans le temps, aura une enfant de couleur blanche, Louise, au point que une voisine n'imaginera pas une seconde que Marianne puisse être la mère de ce bébé. Est-ce que vous, qui êtes née d'une mère suissesse et d'un père gabonais, vous avez connu ce genre de quiproquo aussi?
Oh, je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Lorsque vous êtes métisse et que votre maman ou votre papa est blanc, on lui demande si... ils sont beaux ces enfants, est-ce que vous les avez adoptés? Et quand vous-même, vous devenez parent, que vous êtes métisse, que vous avez un enfant très blanc, qui a peut-être même les yeux bleus, on vous prend pour sa jeune fille au père.
Vous en riez, c'est bien.
Ah bah oui, il y a un moment, on ne peut pas faire autrement, mais je pense que ça doit faire rire quelques-uns de vos auditeurs, parce que c'est assez courant.
Ça pourrait mettre en colère quand même.
Ah, j'ai autre chose, j'ai pas le temps pour la colère.
Vous consacrez votre temps plutôt à la littérature.
Bah, ça donne matière, ouais, effectivement, entre autres.
Et ce qui m'a frappé beaucoup aussi dans la lecture de ce roman, Les Orphelins, c'est la façon dont vous nous racontez, donc de leurs 8 ans jusqu'à la mort d'un des deux jumeaux, je ne dirais pas lequel, évidemment, ce parcours, mais pas de façon académique, linéaire, traditionnel, mais par séquence. Ce sont des scènes clés de leur vie, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, des instantanés, comme si vous aviez été visité d'une certaine façon, Bessora, par ces personnages qui, le temps de votre sommeil peut-être, venaient vous souffler des détails, des petits gestes, qui les font incroyablement vivre sous nos yeux.
Alors, c'est vrai qu'ils me hantent. Bon, d'une manière générale, tous les personnages de mes romans me hantent. Mais là, ce séquençage, le mot est assez juste, me paraissait important dans la mesure où une obsession de Wolf également, c'est le temps. Beaucoup de ses proches se demandent quel est son problème. Alors certains pensent que c'est l'exil, d'autres pensent que qu'il est exilé du temps, qu'il est exilé de son enfance. Et donc ce découpage, ça donne un effet album photo qu'on tourne. J'ai beaucoup réfléchi à la manière de mettre en scène cette histoire et ces séquences m'ont paru respecter le plus le rapport que Wolf entretenait avec le temps.
Et ce temps, il apparaît aussi dans l'articulation de votre livre qui, à la fois, est dans le passé, enfin, de ces années 1950 jusqu'à aujourd'hui, enfin, plus particulièrement l'année 2018, qui a marqué le centenaire de Mandela. Et à la fin de ce temps contemporain, il m'a semblé lire que finalement, même après la fin de l'apartheid, les choses n'avaient pas assez changé et que la colère, la haine, le ressentiment, la violence étaient toujours à fleur de peau, prêts à exploser. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti aussi lors de vos séjours en Afrique du Sud, Bessora?
Effectivement, le roman est découpé en trois époques, mais est traversé par l'année 2018. Centenaire de la naissance de Mandela, mais aussi victoire de la France à la Coupe du Monde. Ça a une importance, ça a aussi une importance dans le livre. Et c'est Barbara qui le dit à un moment que finalement, les murs ne sont pas tombés dans les têtes. Elle observe aussi avec son frère, à un moment du livre où ils sont en Allemagne, on est juste après la chute du mur de Berlin, et on observe que les murs ne sont pas tombés dans les têtes. Donc il ne suffit pas que les murs tombent d'un point de vue légal ou physiquement, mais ils sont malheureusement souvent encore dans les têtes. Moi, je l'ai effectivement observé en Afrique du Sud, où malgré tout, il y a de la part des personnes une croyance très ancrée dans le fait que je suis colored ou métisse, je suis noir, je suis indien, je suis blanc. Au point que il m'est arrivé d'être insulté par un colored, un métis comme moi, parce que je me promenais avec ma meilleure amie de là-bas qui est noire. Qu'il m'est arrivé d'être confronté à des personnes blanches qui avaient peur de moi. Lorsque je leur demandais mon chemin, par exemple, je m'approche pour demander mon chemin. Et il y a une vraie appréhension, une vraie crainte. D'abord, on fait mine de ne pas m'entendre. Et puis quand enfin on m'entend, on se détend parce que j'ai un accent étranger. Donc puisque j'ai un accent étranger, je ne suis plus un danger. Et ça, je crois que c'est peut-être particulier au Cap. Ça ne se passe pas nécessairement de cette manière dans les autres villes. Il semblerait qu'il y ait quelque chose d'un peu spécial au Cap, de ce point de vue-là.
Pour boucler la boucle, comme je le disais tout à l'heure, Marianne, la fille de Wolf, quand elle est adulte, devient éditrice. Et elle tient particulièrement à ses auteurs francophones. Il m'a semblé, Bessora, mais peut-être me trompais-je, voir une certaine ironie de votre part, parce que sa petite fille, son bébé, mange les textes francophones, comme si vous nous disiez tout simplement qu'il n'y a pas de différence en littérature selon la culture ou le pays d'origine des auteurs et qu'il n'y a que des écrivains de langue française. Est-ce que j'ai bien lu cette moquerie dans votre plume, sous votre plume?
Croyez-vous? Alors, Marianne, au départ, je voulais en faire un écrivain, mais je trouvais que c'était un peu facile puisque moi-même, je suis écrivain. Donc finalement, elle est devenue éditrice. Et sa petite fille, effectivement, elle adore bouffer les manuscrits et elle ne mange que les manuscrits francophones. Mais encore une fois, je ne peux pas grand-chose contre les étiquettes. Mais effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes à pas mal d'écrivains. On n'a pas besoin de parler de francophonie dans le cinéma. Charlotte Gainsbourg n'est pas une actrice francophone. Romain Gary n'est pas un écrivain francophone. Voilà. Apparemment, on ne peut pas faire l'économie de ce terme, qui peut être problématique.
Et qui vous tient à cœur, parce que sinon, même s'il s'agit d'une scène d'humour, vous ne l'écririez pas si ce n'était pas quelque chose que vous viviez au quotidien.
C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je vis au quotidien, mais c'est quelque chose dans lequel je suis régulièrement ramenée. C'est comme ça.
En tout cas, j'en profite pour citer une phrase de Véronique Tadjo qui dit... qu'on n'écrit pas francophone, on écrit en langue française. Voilà. Merci beaucoup, Bessora.
Merci.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Les Orphelins, qui a été publié aux éditions Jean-Claude Attès.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.